Sacré, es-tu là? Un podcast qui met de la lumière dans votre vie. Le sacré est présent sous mille formes dans la vie de beaucoup d'entre nous. Nous ne savons pas le définir, ni même le comprendre. Il désigne ce qui est inaccessible. Ce podcast explore tous les chemins qui y conduisent. Je vais à la rencontre de personnes qui ont eu une expérience du sacré, qui se manifeste sous une multitude de formes, rites, mythes, symboles, hommes, animaux, plantes. Je vais les interroger sur ce moment de bascule où tout a changé, intérieurement et extérieurement. Bonjour, je suis aujourd'hui en présence d'une amie, Pascale Mussa, que j'ai connue directrice artistique de la maison Hermès, directrice artistique de la ligne d'objets uniques à supplément d'âme Petit H, ouvert dans la boutique de la rue de Sèvres à Paris. Aujourd'hui, présidente de la Villa Noailles, préside du coup le festival de hier de la mode, de la photo et du design et de l'architecture intérieure. Membre aussi du comité d'acquisition design au centre Georges Pompidou, et je sais qu'elle est très très active et ses choix sont très pertinents. Et aussi membre du comité du CNAP, du Centre National d'Art Plastique. Bonjour Pascale.
Bonjour Natacha.
Peux-tu me dire quelle fut ta première expérience du sacré? Et quel rapport entretiens-tu avec le sacré maintenant?
Alors d'abord, pour moi, le sacré, c'est quelque chose d'indéfinissable, d'intouchable, qu'on doit respecter, qu'on doit... Je pense qu'il faut être dans le sacré, il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et dans les étoiles, je pense que c'est... à la fois un sentiment ou une inclinaison qui peut être religieuse, mais pas uniquement. Et donc ma première expérience, elle est quand même religieuse. Je suis protestante. J'aimais tout particulièrement ces mercredis où on lisait la Bible, mais de façon très, très joyeuse, avec des dessins, des collages. J'avais une, entre guillemets, monitrice au temple qui nous expliquait en fait la vie. Et ma première expérience, ça a été que j'avais donc deux ou trois ou quatre copines avec moi dans ce petit cours qui était le mercredi après-midi, en fin d'après-midi, je crois, et puis le samedi matin. Et donc, on devait réfléchir sur la confirmation, notre confirmation du baptême. Et donc, pour moi, je n'avais aucun doute. Je me sentais bien, en confiance, bien que c'était à l'époque. J'ai commencé peut-être quand j'avais 6-7 ans, mais j'ai 12-13 ans et je fais ma confirmation à 15-16 ans. C'est assez. Mais bon, on avait ces discussions. Elle s'appelait Élise et elle ne voulait pas. Elle s'est mise. Autour de moi, c'était la première personne qui n'allait pas suivre les règles, qui remettait en question tout. Et moi, j'étais plutôt quelqu'un de très calme, mais très... Enfin, j'aurais jamais remis en question une affirmation, un texte. Et ce jour-là, je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres routes. Et ce qui, pour moi, est très important dans le sacré et qu'il est encore, c'est que c'est un moyen quand même de lien incroyable. Et avec deux pôles, on peut... ne pas être d'accord sur quelque chose, mais on peut commencer la discussion et se poser des questions. En fait, cette expérience, j'en ai plein, mais j'ai pensé à celle-là parce que c'était peut-être pour moi la première fois où je n'allais pas tout accepter et où j'ai commencé à former quelque chose que j'ai de plus en plus fort maintenant. C'est de l'écoute, je pense, mais d'avoir un parti pris. Ces moments de ce catéchisme est très important pour moi parce qu'en fait, dans la foi protestante, l'étude des textes, c'est une étude très... C'est absolument incroyable, qui est très contemporaine. Enfin, on peut tout à fait la décrire à notre monde actuel. C'est pas quelque chose qui est figé dans le passé. Et il évolue. Et je pense que cette façon de vivre sa foi, alors là, je parle du sacré religieux, hein, mais je suis autant intéressée par le sacré des tribus d'Amazonie ou de certaines ethnies chinoises ou de certains maîtres vivants japonais. Je pense que chacun a sa croyance. Et voilà, donc ça, c'était la première expérience dont je me souviens.
Les hommes avaient traditionnellement consacré aux dieux leurs objets les plus luxueux. Aujourd'hui, le luxe les a arrachés au culte pour devenir un objet de consommation. Toi qui joues un rôle dans le luxe contemporain et qui en même temps alloue une importance centrale à la présence du sacré dans le monde, comment réconcilier ces deux mouvements apparemment divergents ?
Alors, c'est un vaste sujet que même le mot luxe. Alors, le mot luxe déjà me dérange énormément et pourtant, c'est un si joli mot, hein. C'est la lumière, hein. Mais il a tellement évolué, il est tellement, pour moi, extrêmement dérangeant. Comme tu as dit, j'ai travaillé pendant très longtemps, pendant plus de 40 ans chez Hermès. Et je me souviens, quand je suis rentrée dans cette maison, d'abord le mot luxe n'existait pas, c'était une maison d'artisan. Tant qu'on mettait à faire les choses, à bien faire les choses. C'était la chance de pouvoir choisir lentement le respect des anciens. Le luxe, c'est d'abord d'avoir envie, d'être désiré, d'être choisi et de donner du sens aux choses. J'ai travaillé des objets dans une maison qui a commencé à faire des objets usuel, fonctionnel, dont on avait vraiment besoin. C'était des harnais. Mais on ne pouvait pas conduire ses chevaux sans harnais. Je crois que ce que j'ai appris dans l'objet usuel, fonctionnel, je pense qu'un objet sacré n'est pas forcément un objet fonctionnel. L'intelligence de la main est quelque chose qui me fascine et en plus de ça, pour avoir travaillé pendant toutes ces années dans un atelier, pas dans un bureau derrière un ordinateur, mais dans un atelier, j'ai vu cette ligne absolument incroyable qui va de l'œil à la main et qui permet d'une matière plate de la transformer en un objet absolument magnifique. Et je mets très très haut l'artisan, celui qui crée. Et je crois que sacré et art sont ensemble, parce que c'est eux qui vont voir qui ont une vision et qui nous montrent ce qu'on est incapable de voir, qui font ce qu'on est incapable de faire. Moi, je suis manchotte, je sais ni écrire, ni dessiner, ni... En tout cas, j'ai un respect immense pour toute la création. Et la création et le sacré, c'est vraiment quelque chose. J'ai parlé de la religion tout à l'heure, mais je crois que les artistes, c'est eux qui nous apportent à cette chose dont je parlais au départ, qui est indéfinissable, qui est quelque chose qui apparaît. Et donc, pour revenir au luxe, je pense que ce qui me touche, enfin, j'ai beaucoup d'espoir, hein, parce que là, il y a tout un mouvement de jeunes qui reviennent au savoir-faire grâce à toute cette vague de réflexion sur le développement durable. Et moi, je pense qu'on va vers quelque chose qui est vraiment passionnant, qui est le développement du luxe durable. Quand je suis rentrée chez Hermès, les anciens, tous ceux qui m'entouraient me disaient « Ah, ça c'est Hermès. Ah ben non, Pascal, tu peux pas faire ça, c'est pas Hermès. » Et je comprenais pas ce qui était Hermès, ce qui n'était pas Hermès. Enfin, je comprenais pas. Et je suis allée voir un de mes oncles qui était en train de s'en aller, qui était pratiquement à la retraite. Et je suis allée le voir et je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, c'est Hermès ou c'est pas Hermès? Et il m'a dit quelque chose qui m'a étonnée à l'époque, mais que j'ai compris et qui est essentiel pour cette question. Il m'a dit, mais c'est un objet, chez Hermès, c'est un objet qui se répare. C'est pas un objet avec un logo, c'est un objet qui se répare. Et je suis partie de là et je me suis dit, je n'ai pas très bien compris. Et en fait, quand on imagine ou quand on invente un objet qui se répare, ça veut dire que c'est un objet qu'on veut garder, qu'on veut transmettre. C'est un objet qu'on a pensé vivre longtemps. C'est un objet dont on a choisi une matière qui va être destinée pour l'utilisation de cet objet. Cette idée de transmission d'objets, de réparation, est en fait quelque chose qui m'anime. Et je pense qu'il y a dans le sacré quelque chose qui est important, c'est le soin, la réparation, le soin de l'autre.
Pascal, à travers les explorations que tu as faites à travers le monde, à la recherche de l'objet parfait, peux-tu décrire une expérience unique avec un artiste ou des artisans?
Alors, ça a à voir avec la dernière question, réparation. Je suis très attirée par les artisans d'Asie, particulièrement le Japon, parce que ma vie professionnelle m'a amenée très très souvent au Japon. Au bout d'une quinzaine d'années, j'avais demandé à le garçon qui s'occupait de la communication chez Hermès de m'emmener voir des céramistes. Parce que j'aime énormément le travail de la terre. Et il me dit, je vais t'amener chez quelqu'un qui était dans le passé premier ministre au Japon et qui a complètement changé de vie et qui est devenu un céramiste dans un petit village et qui fait un travail absolument extraordinaire. Et voilà, je voudrais que tu le rencontres chez lui. Alors, on est allé dans un petit village à côté de Kyoto. Et quand on est arrivé chez cet homme d'un certain âge, première rencontre avec cet homme, il me propose de faire une cérémonie de thé que je n'avais jamais fait depuis que j'étais au Japon. Bien sûr que je le connaissais, mais je ne l'avais jamais réalisé. Et il m'emmène dans l'endroit que j'adorerais avoir, une maison faite par un de ses amis architectes dans un arbre, en terre et en bambou. Une petite maison, on escaladait avec un petit escalier extrêmement simple. Et nous voilà tous les trois agenouillés avec rien, mais tout. Une lumière dans une petite lucarne, un tokonoma avec une de ses poteries absolument merveilleuses et avec juste une fleur. Enfin, simplicité inouïe et une beauté incroyable. Un moment, mais magique, suspendu. Et puis, il m'offre une tasse complètement réparée avec une petite boule d'or. J'ai appris à ce moment-là que ça s'appelait le kintsugi, cet art de réparation donnait de la valeur à un objet absolument simplissime, mais qu'on se transmettait de génération en génération. Et donc je ne peux pas quitter des mains ce bol que je prends dans les mains, qui avait une forme, il y avait presque mes doigts pouvaient se mettre dans ce bol, et il y avait cette microscopique boule d'or qui avait réparé les bréchures de ce bol magnifique. Et puis après, on est allé dans l'atelier, il m'a montré son travail, il était superbe, et j'avais ce bol dans la tête, et je me disais, est-ce que j'oserais demander de l'acheter, d'en être propriétaire? Et puis quelque chose là-haut me disait qu'il fallait que je ne demande rien. Et puis on est parti, on est reparti dans un voyage formidable de céramistes partout dans le Japon. Et puis on est arrivé chez Noguchi et dans sa maison avec ses collections de cailloux, de pierres magnifiques. Et puis je me suis lancée et j'ai demandé à cette amie qui m'avait amenée, j'aurais rêvé acheter ce bol. Et le mot acheter m'a paru complètement incongru parce que ce n'était pas le sujet. Mais quand même, j'aurais bien aimé. Et il m'a dit, je pense que tu as raison de ne pas le demander parce que d'abord, c'était quelque chose qui est transmis et donc tu ne trouveras enfin très rarement du kintsugi dans des magasins. Et donc c'est un bol qui devait faire partie de sa famille. Et deuxièmement, si tu avais demandé le prix de cet objet, il serait comme la plus belle pièce d'art au monde. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ce sujet qui m'intéresse dans le mot d'objet de luxe, que l'on dit de luxe. C'est ces objets qui sont passés de main en main, qui ont leur patine, qui ont leur vie. Parce que pour moi, les objets parlent. Et les objets parlent pourquoi ? Parce que quand on a passé des heures et des heures avec un objet pour le fabriquer, on a du mal à s'en détacher. Enfin, c'est ce que les artisans me disent. Et d'ailleurs, il y a une expression magnifique chez Hermès. Quand un artisan a passé peut-être 200 heures, 500 heures, 600 heures sur un objet et qu'il doit le mettre dans une boîte pour qu'il soit vendu, avant de le quitter, il le caresse et il dit « Ah, cet objet rend bien la caresse ». Ça veut dire qu'il est presque arrivé au sommet de son art, il a du mal de se détacher cet objet, et c'est pour ça, moi je pense qu'un objet qui a été réparé, il a été aimé, bichonné, éclairé. Il y a quelque chose qui est indescriptible dans ce que je raconte, parce que je comprends que dans la vie actuelle, on se connecte, on va vite, et je ne suis pas du tout passéiste. Mais je pense que c'est formidable d'avoir cette expérience avec des gens qui passent du temps avec un objet, quoi qu'il en fût. Et d'ailleurs, moi, je comprends très, très bien tous ces objets de culte. J'y suis très... Enfin, je comprends. Par contre, je ne comprends pas du tout ce qu'est devenu l'art contemporain, enfin certains arts contemporains ou des artistes qui sont devenus sacralisés. On leur doit beaucoup, mais ça me dérange un tout petit peu. Je trouve que quelquefois, un galet juste avec un joli nœud est une chose que l'on devrait regarder, méditer. Pas parce que c'est le caillou, mais parce qu'il te donne. Voilà.
Pascal, que voudrais-tu rendre sacré ?
On n'a pas parlé d'amour. Je pense que l'amour.
Merci infiniment, Pascal. J'étais ravie d'avoir cette rencontre
Merci.
Avec toi.
Merci, Natacha.
C'était un très beau voyage. Merci.
Merci.
Retrouvez-moi un jeudi sur deux pour entendre parler des gens de tout horizon. J'imaginais ces podcasts en réaction contre les préjugés véhiculés par les sectaires, les douaniers des spécialités, les fragmentateurs de multiples scènes en France et partout ailleurs. Après avoir commenté ce podcast et laissé une appréciation, je vous invite à éteindre votre smartphone pour aller à la rencontre du sacré.